un podcast France Culture.
Les cimetières, lieux de vie et terrain de jeu du sauvage. À l'heure où les portes se ferment, après le temps de recueillement des familles, ou les déambulations de promeneurs ou de curieux, les cimetières s'ouvrent à une autre vie, souvent insoupçonnée. Renardeaux, oiseaux, chamois, belettes, autres espèces s'y répandent et s'y délectent. Et ce sont là des lieux qui, depuis quelques années, sont aussi l'objet d'une autre attention de la part de jardiniers paysagistes qui choisissent d'y laisser une flore et une faune, s'y exprimer à loisir et d'enherber aussi ces espaces naturels en toute liberté. C'est l'occasion pour nous d'interroger ce changement de regard et de politique paysagère sur ces terrains de vie. Avec nous, Benoît Gallo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conservateur du cimetière du Père Lachaise, auteur du livre « La vie secrète d'un cimetière », un livre tout récemment paru aux éditions Les Arènes. Et avec nous également Cathy Bias-Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des espaces verts de la ville de Versailles et l'une des pionnières, on peut le dire, en matière de transition des espaces verts publics. Et je précise que vous êtes vice-présidente à la transition écologique et énergétique de l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Et puis dans l'œil du monde planète, le journaliste du quotidien Le Monde, Stéphane Mandard, nous parlera de la mise en demeure de cesser de financer les énergies fossiles qui touche une grande banque française. Bienvenue à toutes et à tous dans le magazine de l'environnement de France Culture, préparé par Anaï Morales, avec la collaboration de Vanessa Tchang, et puis les équipes aussi de documentation de Radio France, émission réalisée par Alexandra Malka avec à la technique ce soir Éric Boissé.
Donc en se mettant comme ça sans trop bouger, on peut les photographier.
Le jour, le travail de Benoît Gallo,
bonjour.
C'est de veiller sur ce cimetière de 70 000 tombes.
Et sur le débroussaillage, là, dans les divisions, vous en êtes où?
Bon, bah là, on est vers le bas du cimetière.
L'entretien se fait à la main.
Ça va, c'est maîtrisé.
Bon courage.
Merci, bonne journée. Au revoir.
Car depuis 2011, il est interdit ici d'utiliser des pesticides avec le retour de la végétation.
Ça repousse sur les tombes, entre les tombes.
Les animaux aussi ont fait leur réapparition. Et désormais, à quelques pas de la tombe de Molière et de Jean de La Fontaine, des fables prennent vie.
Là, il y a un chat, il y a une fauvette à tête noire qui n'est pas contente du tout de la présence du chat. Quand on l'entend mettre des cris. Pendant qu'on fait à manger, parfois on voit des animaux. Il y a des chats qui viennent dans les jardinières sur les tombes en bas. Parfois des fouines également, elles aiment bien dormir. Il y en a qui dorment dans le secteur, donc on voit passer une fouine au crépuscule. Et je pense que les gens, même les familles qui ont des tombes aujourd'hui, voient le cimetière différemment, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent elles sont pas du tout choquées qu'il y ait des renards ou des chats, au contraire, elles demandent des nouvelles. Ça donne un côté apaisant au cimetière pour faire son deuil.
Extrait d'un reportage diffusé le 29 mars 2022, c'était sur France 2. Concrètement, Benoît Gallo, on va entrer un petit peu plus dans votre parcours, puisque vous êtes quand même issu d'une marmite funéraire familiale, hein, on peut le dire, fils d'un marbrier de village. Donc cette marmite familiale vous prédestinait normalement à cette fonction, même si vous aviez choisi une autre voie universitaire. Vous avez fait des études de droit et de juriste, c'est ça?
Exactement. Je n'ai pas choisi de reprendre l'entreprise de marbrerie funéraire qui était gérée par mes grands-parents, puis mes parents. J'ai fait du droit et j'ai travaillé dans le privé pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai passé un concours pour entrer à la ville de Paris et le chargé de recrutement m'a proposé un poste au Père Lachaise. Donc j'ai vu un signe du destin quelque part et j'ai rejoint le service des cimetières de la ville de Paris en 2006. Et de fil en aiguille, j'ai fait plusieurs postes et aujourd'hui, je suis donc à la tête du Père Lachaise.
Oui, parce qu'il faut préciser qu'avant d'être nommé conservateur du Père Lachaise, donc c'était en août 2018, vous avez travaillé 8 ans au cimetière parisien d'Ivry. Et aujourd'hui, vous êtes quand même à la tête de ce bateau amiral, on peut dire.
Oui, c'est là.
3 millions de visiteurs par an.
Exactement.
Et un lieu très spécifique quand même. Hein. Combien d'hectares?
43 hectares.
Avec aussi une population particulière, hein, les riverains, les pères-lachésiens, comme vous les appelez, les flâneurs, les familles, les tafophiles. Concrètement, vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus.
Oui, bien sûr. Oui, il y a beaucoup de publics très différents au Père-Lachaise. Et les tafophiles, ce sont les amoureux, les passionnés des cimetières qui passent leur journée à arpenter les allées pour retrouver les tombes de ceux qu'on a oubliés. Et donc, il y a une communauté très, très active en France de tafophiles.
Et donc, avec un pic de fréquentation, faut-il le dire, le 1er novembre.
Oui,
toujours.
C'est la journée la plus importante en termes de fréquentation. C'est la journée au Père Lachaise où il y a plus de familles endeuillées que de touristes. Donc c'est aussi une journée à part pour nous, puisqu'on ressent une émotion assez forte dans les allées, qu'on ressent un peu moins les autres jours de l'année. Et c'est une journée qu'on prépare depuis maintenant 2 mois.
Alors vous nous livrez votre parcours hein, dans ce livre truculent. C'est peut-être paradoxal, hein, mais la vie secrète d'un cimetière, c'est d'une richesse incroyable. Et puis vous nous livrez beaucoup de choses très personnelles et de votre parcours aussi. Et on sent que votre regard sur cet univers des morts, terre de recueillement, a évolué avec vos fonctions prises au Père Lachaise. Vous écrivez que l'entretien des cimetières supposait au début de vos fonctions juste l'éradication de la moindre mauvaise herbe et qu'il y a peut-être à l'origine pour vous de votre première prise de conscience une délibération du Conseil de Paris en 2011 qui a voté un plan biodiversité, engagé une politique de diminution des produits phytosanitaires et là, votre première réaction au début elle est plutôt hostile. Hein.
Complètement, j'étais contre, j'avais peur que les cimetières deviennent des parcs avec des comportements inadaptés. Mais je me suis quand même lancé dans cette campagne Zéro Phyto et mon regard a complètement changé au fil des années.
Vous êtes dit, à quoi bon ? Je vous cite, hein, parce que c'est quand même pour les auditeurs. Nous allons crouler sous les plaintes et puis nous ne sommes pas un parc mais un cimetière. Donc je me tourne vers Cathy Bias-Morin. Les cimetières vivent depuis quelques années une révolution et une transformation esthétique, également psychologique. Et la politique du zéro phyto a certainement été salvatrice. Mais vous, Cathy Bias-Morin, sur ce terrain, vous avez appliqué votre propre politique de la naturalité avant même ces interdictions ou en tout cas ces réglementations arrivé, je mentionnais 2011 et puis il y aura d'autres réglementations.
Oui, alors c'est vrai que sur Versailles, nous étions déjà en zéro pesticide et en gestion écologique depuis 2005, sur l'ensemble des parcs et jardins et sur l'ensemble de l'espace public voirie, donc 240 km de trottoir. Et puis, suite à l'élection de notre nouveau maire, François de Mazières, j'ai récupéré la gestion des espaces verts des cimetières et aussi la gestion administrative avec les conservateurs qui sont dans 4 cimetières et qui représentent 18 hectares et demi. Et du coup, bah, ça a été tout naturel que l'expérience qui avait été vécue par les jardiniers des parcs et jardins bascule pour les équipes de jardiniers des cimetières. Et dès 2009, on y est allé. Donc avril 2009, l'aventure était partie avec un soutien politique fort puisqu'il n'y avait aucune loi qui nous obligeait à y passer. Le sénateur Labbé est même venu nous visiter, Joël Labbé, hein, puisque la loi éponyme obligeait les collectivités dès 2017 à passer à zéro pesticide, excepté sur les cimetières et les stades. Et puis, depuis le 1er juillet 2022, il faut le rappeler, on a une obligation réglementaire de passer à zéro pesticide sur ces lieux maintenant.
Alors vous aussi, hein, il y a aussi un parcours personnel ou familial, parce que bon, pour donner un ordre de grandeur aux auditeurs, depuis 2002, donc à Versailles, c'est la fin des traitements chimiques, hein, des voiries, des jardins, des parcs, etc. 130 000 litres de produits qui équivalaient à 25 000 euros de frais à l'époque, donc on est passé sur du désherbage manuel ou thermique. Mais vous, quand même, la question de santé publique, elle faisait déjà corps en vous, de part peut-être aussi votre mari, hein, médecin en milieu rural, on peut le préciser.
Voilà, il était médecin en milieu rural et aujourd'hui il est neurologue. Donc il voit doubler la maladie de Parkinson. Et les pronostics, c'est un doublement d'ici les 20 prochaines années encore. Donc c'est très inquiétant. Et puis les premières maladies professionnelles sont arrivées chez les jardiniers. Chez les jardiniers des espaces publics, donc des collectivités territoriales. Et c'était déjà ça chez les viticulteurs et chez les agriculteurs. Et aujourd'hui, la maladie professionnelle est vraiment reconnue et donc il y a tout un travail aussi d'accompagnement qu'il faut qu'on sache mener quand on est manager et directeur de grandes équipes comme les nôtres. Et tout le travail de fond est fait par eux. Donc c'est vraiment la beauté et l'esthétisme du cimetière leur revient. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail en collaboration, que ce soit avec les conservateurs et puis les jardiniers, puisque c'est un changement complet de mentalité. Et du coup, c'est faire accepter la végétation et la nature à des gens qui ont vu des choses pendant des années où on supprimait la végétation. Donc c'était quand même ça l'idée à la base.
Alors on peut préciser que le grand cimetière, hein, le plus emblématique, c'est celui des Gonards, qui fait 12,5 hectares, alors plus petit hein, que le Père Lachaise. Il est aujourd'hui labellisé éco-jardin, c'est-à-dire que sur plus de 220 sites avec ce label, seules une dizaine sont des cimetières. D'ailleurs,
voilà.
Faut préciser.
Tout à fait, puis ça veut dire que c'est des documents qui nous permettent d'évoluer aussi, puisqu'on était le premier cimetière labellisé éco-jardin en France. Dès 2012, ça donnait aux équipes aussi une marge de progression parce qu'on démarrait et on voulait aller bien plus loin. Et c'est vrai que bah, c'est un accompagnement et puis une réflexion qui nous permet de progresser toujours, parce que c'est comme ça qu'il faut arriver à entraîner tout le monde.
Benoît Gallou, vous dites que c'est la puissance du vert qui vous a fait changer. Alors on va s'intéresser au vert, c'est-à-dire à la flore, avant de basculer sur la faune. Et peut-être que des personnes vous ont d'ailleurs aidé aussi, poussé à regarder autrement ce cimetière, la nature. En tout cas, il vous a fallu vous aussi concilier à la fois le respect des morts avec le respect du vivant. Comment ça s'est passé au cimetière du Père-Lachaise, donc domaine de grande ampleur, avec une végétation d'importance, plus de 4000 arbres, oui. C'est ça, de près de 80 essences sur ces 43 hectares. Voilà, le travail des bûcherons, des cantonniers, des jardiniers, on n'imagine pas, mais vous, tout d'un coup, ça a dû révolutionner la gestion.
Oui, complètement. Alors, le Père-Lachaise, dès l'origine, avait été créé comme un jardin à l'anglaise. Donc, il y a quand même une conception très forte à l'origine de la présence de la végétation. Mais victime de son succès, la place de la végétation a été réduite pour laisser place aux sépultures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a quand même 4000 arbres, c'est sa force, mais la strate herbacée ou arbustive a été réduite comme peau de chagrin au fil des décennies. Et aujourd'hui, tout l'enjeu en termes de gestion avec les équipes, les jardiniers, les bûcherons, les cantonniers, c'est de réussir à végétaliser les 13 hectares de trottoirs, de cheminements, d'allées sur les 43 hectares. C'est une part très importante. Et on s'y emploie depuis 2016, on a déjà végétalisé 8000 m2 par exemple, on a une tentative de végétalisation des murs d'enceinte, on laisse des zones de biodiversité, là où avant on passait 4 fois ou 5 fois la tondeuse, aujourd'hui on laisse la végétation s'épanouir et on fauche une fois par an seulement. C'est de l'accompagnement des équipes parce qu'elles étaient habituées, elles aussi, pour elles, leur cimetière était propre s'il n'y avait rien qui poussait, donc les mentalités ont dû changer également au sein de nos équipes. Et aujourd'hui, la puissance du vert, comme je le dis, c'est de voir toute cette verdure, ces fleurs, ces couleurs aussi qui réapparaissent entre les tombes et qui apportent au final beaucoup d'apaisement auprès des familles endeuillées.
Alors, quand vous dites qu'il a fallu faire évoluer donc les équipes, la mentalité et le public, vous êtes retrouvé confronté à quoi ?
Alors, les premières années ont été très difficiles, il y a eu beaucoup de plaintes, beaucoup de réclamations, on manque de respect aux morts, ce respect des morts qui signifiait en fait cimetière très minéraux, sans aucune trace de vie, sauf dans les jardinières qu'on fleurit à la Toussaint éventuellement, mais la tolérance s'arrêtait là. Donc on a fait de la communication, on a fait des affiches, des petits flyers, on a expliqué la démarche, la ville de Paris a essayé de communiquer, et puis je pense qu'on a été aidé aussi par les thématiques comme le glyphosate, on a parlé beaucoup de cette molécule, on a vu également dans les villes réapparaître les pieds des arbres, des zones en friche, donc il y a eu un mouvement un peu plus global qu'au sein des cimetières. Petit à petit, moi j'ai quand même l'impression que les mentalités changent et évoluent. Aujourd'hui, il y a toujours des mécontents, malheureusement il y a des irréductibles, mais les plaintes ont largement diminué, il y a une acceptation grandissante, on va dire, de la population, et je le vois quand je vends des emplacements à des familles aujourd'hui. Je les préviens, je leur dis, vous savez, on est en zéro phyto, donc quand vous allez venir, il y aura peut-être de la végétation et des fleurs. Tout ça formidable. On a réussi à convaincre la majorité de nos usagers aujourd'hui.
Cathy Bias-Morin, parce que je vois que n'hésitez pas, vous pouvez interagir bien sûr avec Benoît Gallou à tout moment. Quand on entend comme ça parler de cette évolution, aussi du regard qui évolue, on se dit tiens, est-ce qu'aujourd'hui, de votre côté, vous constatez que même des usagers, des familles vous font peut-être des propositions, pourquoi on ne mettrait pas telle ou telle espèce, telle ou telle arbre ou fleur ou autre? Et d'ailleurs, ça pose quand même la question aussi de la diversité de ces fleurs et de l'enherbage, parce que il y a des plantes que l'on retrouve systématiquement dans ces lieux, enfin des plantes et des arbres, hein, on pense aussi cyprès, aux chrysanthèmes, tout ça, c'est très symbole de cimetière, à tel point que même certains particuliers n'osent pas les mettre chez eux parce que ça fait trop cimetière. Mais où on en est en matière de diversité, de choix? Est-ce que c'est le monde du possible aujourd'hui?
Alors, sur Versailles, ça fait fort longtemps qu'on est passé avec beaucoup de plantes vivaces. Et donc, moi, ce que je souhaitais, c'était vraiment qu'on fleurisse les cimetières, surtout pas qu'à la Toussaint, mais sur toute l'année, et que justement, le fait de changer et d'avoir une autre vision de la nature en ville au sein d'un cimetière, c'était de se dire, il faut que le cimetière soit beau, parce que peut-être qu'à un moment donné, certaines personnes vont comprendre qu'il y a du changement, mais du coup, ils vont peut-être mieux l'accepter parce que ça sera beaucoup plus fleuri. Donc on a mis beaucoup de rosiers anciens sur tous les murs en meulière, beaucoup de roses trémières aussi, des clématites. Puis j'ai des jardiniers qui sont un peu passionnés, qui ont fait des récoltes de graines et qui ressèment, et qui ressèment, et qui ressèment. Et du coup, même les gens aujourd'hui viennent chercher des graines dans les cimetières, donc le message passe bien. Et tout le travail d'embellissement, ça a été de dire, on a aussi des carrés militaires qui sont assez importants. C'est de dire, on ne sait pas au moment de la Toussaint qu'on va les fleurir, c'est on les fleurit toute l'année en échelonnant et avec une bonne connaissance des plantes vivaces, ça marche bien. Donc il peut y avoir des sauges, des asters, des sédums qui résistent bien à la sécheresse, et puis des rosiers, des petits œillets, et puis on a eu la chance de voir apparaître 6 orchidées sauvages. Donc c'est formidable, dès que vous laissez la végétation tranquille, où vous faites certaines tondes sur des pelouses un peu sèches à certaines périodes, bah vous avez la chance de pouvoir ça. Donc on met des petits bâtonnets, les jardiniers les repèrent pour pas les tondre après. Et puis il y a toute une partie de prairie qui est laissée en prairie fleurie naturelle qui sera fauchée tardivement, c'est-à-dire fin de l'hiver, nous, février, pour que les oiseaux et les insectes puissent trouver refuge et que les oiseaux aient de quoi manger pendant tout l'hiver. Donc c'est vraiment une volonté forte. C'est peut-être le message un peu le plus compliqué à passer aux riverains. Sinon, je crois que les Versaillais sont habitués maintenant à avoir nos cimetières avec une bonne communication et des affiches aussi qui permettent un dialogue aussi avec les équipes de jardiniers qui sont toujours les mêmes aussi. Et du coup, il y a un vrai partage entre les conservateurs et les habitués des cimetières qui sont quand même souvent les mêmes.
Vous avez moins de plaintes, c'est ça?
On en a eu finalement pas beaucoup parce que sur 35 plaintes en 2009, parce qu'on faisait, j'ai tout de suite compté tout ça, il y en avait que 15 qui étaient liées à une végétation spontanée qui posait un problème. Et donc j'avais expliqué à notre maire que finalement 35 plaintes déjà par rapport à 88 000 habitants, c'était pas tant que ça, et seulement 15 liées au problème de végétalisation spontanée, c'était peu. Et donc il fallait qu'on tienne le coup et puis qu'on accompagne ces gens-là en communication et qu'on prenne le temps d'expliquer les choses.
Peut-être même de parler de santé publique, c'est-à-dire que on est dans un lieu de recueillement avec des morts, mais aussi ce sont les vivants qui viennent rendre hommage aux morts ou se recueillir, et que c'est aussi une question de santé publique pour eux-mêmes, et d'ailleurs on n'a pas parlé, mais aussi pour les nappes phréatiques qui souvent, je sais qu'à Versailles,
On est vraiment dessous.
On est situé au-dessus de ces nappes phréatiques.
Les quatre cimetières sont vraiment posés sur la nappe phréatique, et donc à chaque fois qu'il y avait du Roundup qui était posé dessus, c'était une catastrophe, et pour les jardiniers, et pour les personnes qui venaient désherber derrière leur sépulture.
Benoît Gallo, vous voulez réagir peut-être à ces questions-là?
Oui, effectivement, la santé publique de nos agents également, quand ils traitaient, moi je me souviens, j'ai connu les périodes de traitement, ils étaient avec des combinaisons dignes d'un astronaute, les divisions étaient fermées avec des panneaux, avec des têtes de mort, enfin on voyait bien qu'on faisait quelque chose quand même qui était contre nature, si j'ose dire, et aujourd'hui on n'a plus ce problème-là, pour nos équipes, pour nos usagers également, quand ils viennent au cimetière, c'est aussi pour bénéficier de cette végétation, de ce côté espace vert, où on en parlera peut-être, mais il y a une dimension très apaisante, et pour des riverains qui n'ont pas forcément de tombe, c'est aussi un lieu où on peut venir trouver du calme et du silence en pleine zone urbaine, donc c'est aussi très intéressant de ce point de vue-là.
Alors, qui dit verdissement dit fleurs, plantes, certes, mais aussi insectes, espèces d'une faune sauvage qui s'y répand et s'y épanouit. Et en ce sens, le confinement a sûrement joué un rôle.
Symbole du retour de cette vie sauvage, début mai, une scène étrange se produit au Père-Lachaise.
En traversant une allée, j'ai entendu du bruit. En tournant la tête, j'ai vu un petit renardeau. Il est reparti très vite se cacher. Et je l'ai revu avec ses frères et sœurs le soir. Après 20h, où là je suis allé les voir pour essayer de prendre les premières images. Et les renardeaux sont encore petits, pas très attentifs, donc on peut les filmer alors que les adultes, il n'y a quasiment aucune chance.
Le couple de parents serait parti du bois de Vincennes, situé à 5 km. Sur leur route, ils vont croiser le cimetière. Ils s'y réfugient et au premier jour du confinement, la mère donne naissance à 3 renardeaux. Le Père Lachaise est fermé. Depuis 2 mois, personne ne fréquente les allées. Dans ce parc de 45 hectares, les renards peuvent chasser tranquillement souris, hérissons, insectes et oiseaux dont ils se nourrissent. Dans quelques mois, les jeunes quitteront leurs parents. Quant au couple, s'il reste, la direction du cimetière a pris la décision de le garder.
Au Père Lachaise, ils ont tout ce qu'il faut pour se nourrir, pour se cacher la journée, pour grandir. Ils sont très discrets, ils sont très méfiants, ils ont peur de l'homme. C'est ça qui leur permet de survivre d'ailleurs. Donc il faut les laisser, il ne faut surtout pas les nourrir. Ce sont des animaux sauvages qu'il faut laisser s'épanouir. J'espère qu'ils vont rester. Pourquoi pas refaire des petits l'année prochaine. Voilà, ce sera toujours un plaisir de les observer de loin.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
C'était un extrait de reportage diffusé sur France 2 le 28 mai 2020. Pour rappel, le confinement, c'était du 17 mars au 10 mai 2020. Et dans ce reportage, Benoît Gallo, on parle d'une rencontre qui a eu lieu le 23 avril. 2020, vous avec ce Renardo dans le cimetière, le début vraiment total d'une aventure, et y compris une aventure qui ensuite va rencontrer un public, votre compte Instagram, La Vie au Cimetière, votre appareil photo, le réflexe. Il faut vraiment que vous nous en disiez plus sur ce qui s'est passé ce jour-là et de quelle façon est-ce que vous êtes devenu non seulement un photographe, mais alors quelqu'un rodé à l'affût ou qui a dû apprendre comment se mettre à l'affût.
Oui, oui, c'est très étonnant cette rencontre. Faut quand même se souvenir qu'on est dans un contexte très 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 particulier de premier confinement. Nous on travaillait, on était au bout de la chaîne, on va dire, sanitaire, puisque malheureusement on devait enterrer beaucoup de défunts. C'est plus 40% d'enterrements au Père-Lachaise au mois d'avril par exemple, avec des effectifs très réduits. Et un contexte dans un Paris très silencieux, très replié sur lui-même. Donc c'est vrai qu'on était dans un contexte professionnel très difficile. Et j'ai eu la surprise en allant voir un emplacement que je vais concéder à une nouvelle famille, donc dans un Père-Lachaise complètement vide, ce qui est très rare. Et je suis tombé nez à nez avec un Renardo, vraiment à 2-3 mètres, et on s'est regardé pendant quelques secondes. Et à partir de là, comme vous dites, j'ai ressorti l'appareil du placard. Je suis retourné, j'ai fait des photos. J'ai réalimenté mon compte Instagram La Vie au Cimetière, effectivement. Il y a eu un intérêt petit à petit croissant de la part des abonnés, d'un public qui était très étonné de voir autant de vie en fait entre les tombes. Alors les renards, forcément, c'est très emblématique. Et chaque année, donc ça fait 3 ans aujourd'hui que les renards vivent au Père-Lachaise. Donc c'est un très bon indicateur pour nous. Ça veut dire que si une famille de renards peut s'installer au Père-Lachaise, c'est qu'elle y trouve de quoi manger, un gîte pour dormir. Donc ça veut dire qu'en termes de biodiversité, on a aussi une gestion qui est pas trop mal, je pense, aujourd'hui. Et c'est intéressant d'entendre le reportage parce que les adultes, effectivement, j'avais beaucoup de mal à les observer la première année. Alors qu'aujourd'hui, cette année notamment, je les ai vus très souvent et même depuis la fenêtre de mon logement de fonction. Alors, il y a quand même une peur de l'homme et je tiens à ce qu'elle reste. On a l'impression quand même qu'ils s'habituent à ce cimetière, qu'ils s'y sentent bien. Et aujourd'hui, je réussis à faire des photos de renards adultes. Alors, j'ai amélioré ma technique aussi parce que faire de l'affût, c'est très particulier. En plein Paris, c'est un silence incroyable le soir. Ça, c'est un luxe que voilà, j'en suis bien conscient. Je suis conscient de ce privilège. Après, c'est quand même des heures d'attente, de patience, ne pas bouger, se cacher pour espérer voir un mouvement entre les tombes. Et quand ça arrive, c'est toujours un petit miracle. C'est toujours beaucoup d'émotions. Et là, on espère réussir le cliché. Il faut être très, très rapide. Et donc voilà, au fil des années, j'ai aussi amélioré cette technique et ce qui me permet de faire quelques clichés, d'alimenter régulièrement mon compte pour partager en fait cette vie animale entre les tombes. Parce que je répète, le Père-Lachaise n'est pas devenu un zoo. On a quand même des gens qui aimeraient bien les voir en pleine journée. Malheureusement, ce n'est pas possible. Les renards sont cachés et dorment. Et on ne les voit qu'au crépuscule, vraiment en fin de journée.
Vous n'aviez pas demandé à cette époque-là conseil à Vincent Munier ou Sylvain Tesson, qui nous ont vraiment complètement subjugués par leur film La Panthère des Neiges.
Oui, et non, j'ai pas osé.
Alors, ce qui est intéressant, parce qu'il faut peut-être ajouter une précision pour nos auditeurs, c'est que vous parlez de votre logement de fonction. Nous ne l'avons pas dit au début de l'émission, mais vous habitez dans le Père-Lachaise avec votre famille, hein, votre femme, vos enfants, et que durant ce confinement, vous aviez ces plus de 40 hectares à disposition, et que c'est aussi cette immersion familiale dans le Père-Lachaise.
Oui, oui, ça étonne toujours, mais j'habite avec ma femme et mes 4 enfants au sein du Père-Lachaise. Pour nous, c'est plutôt une chance. Et on l'a vu pendant le confinement, puisque on avait des restrictions kilométriques, on pouvait pas sortir. Nous, le dimanche, quand il n'y avait pas d'enterrement, on avait 43 hectares pour se balader, pour se mettre sur un banc, observer la tour Eiffel au loin. C'est aussi des souvenirs personnels très forts dans un contexte difficile. Et aujourd'hui, pour nous, on est content d'habiter dans un cimetière, paradoxalement. On se sent privilégié.
Cathy Bias-Morin, est-ce que vous avez le même retour à partager avec nous? Un formidable allié, au fond, dans cette évolution de ces espaces, espaces verts aussi par rapport à la faune. Quelle faune, en général, s'installe dans les jardins et les cimetières, notamment à Versailles? Et est-ce que, du coup, avec le confinement, c'est devenu peut-être de nouveaux refuges pour une biodiversité insoupçonnée?
Alors, je pense que nous, on a la chance d'être limitrophe de la forêt domaniale de Versailles. Et donc les renardos, on les avait déjà avant le confinement. Et notre conservatrice qui vivait sur place m'avait montré une fois un film qu'elle avait pu faire avec la famille de renards qui sortaient dans la neige. Et donc c'était extraordinaire. Voilà. Et puis là, les équipes de jardiniers les recroisent régulièrement. Nous, on a accentué notre regard d'observation avec les équipes de jardiniers sur des protocoles participatifs, que ça soit au niveau des papillons, que ça soit au niveau des oiseaux. Ça fait très longtemps qu'on travaille, depuis 2005, on fait des relevés d'oiseaux ornithologiques avec l'association des naturalistes des Yvelines. Et puis ça se poursuit, donc ça nous permet un petit peu de voir l'évolution. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un petit peu plus d'oiseaux suite au confinement, mais on reste vigilant parce que il suffit d'un été sec comme on a pu avoir, moins d'insectes, et donc une chute d'oiseaux. On fait un protocole hérisson aussi avec l'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France, où là c'est quelque chose d'assez rigolo, vous mettez en place des tunnels à hérissons, et vous mettez deux petites feuilles à quatre, des croquettes de chat, et puis vous allez les faire marcher dans de l'encre pour l'entrée. Et du coup, vous allez voir les petites pattes passer à travers. Et c'est comme ça qu'on arrive à quantifier un petit peu si on a... Et on fait ça cinq nuits consécutives pour voir si on a bien des hérissons. Et puis les jardiniers ont travaillé et créé une mare cet hiver pour essayer d'attirer des tritons, des canards, des oiseaux. Des libellules sont tout de suite arrivées. On espère avoir des grenouilles. Et puis, on s'est rendu compte que les oiseaux, les guêpes aussi venaient y boire, les abeilles, parce qu'on a aussi des ruches. Donc, c'est vrai que c'est assez riche, des écureuils. On a eu des chevreuils quand il y a eu un mur qui s'est un peu cassé suite à une tempête. On a vu tout de suite des chevreuils arriver dans le cimetière. Donc, c'est vrai que les belettes, voilà. Donc, on a toujours plein de choses à découvrir.
Est-ce que ça veut dire que potentiellement, ce mur qui s'est cassé, est-ce qu'il ne faudrait pas faire peut-être une petite arche ou quelque chose pour que la vie sauvage puisse pénétrer dans les cimetières ?
C'est ce que nous avons fait pour les hérissons, par exemple. Faire des grillages un petit peu troués avec des petits passages et aussi pour certains plus petits mammifères.
Après, l'idée, le risque, c'est de voir des personnes rentrer s'installer, c'est ça aussi ?
Par rapport au chevreuil, ouais. Là, c'est clair. Et puis finalement, le chevreuil, il nous mange aussi toutes les jeunes plantations d'arbres qu'on peut faire. Donc on reste vigilant par rapport à ça et le mur a été reconstruit. Mais les passages de faune, d'avifaune aussi, c'est important.
Des chats, des fouines, des oiseaux, Benoît Gallo. Alors c'est intéressant les oiseaux parce que vous en êtes effrayé depuis l'enfance.
Ah oui, moi j'ai une peur des oiseaux, enfin, tout ce qui a des plumes, des bêtes à plumes, c'est une véritable phobie. Mais aujourd'hui je les photographie, je prends plaisir à le faire et je découvre un domaine que je n'y connaissais absolument rien. Mais en les photographiant, je me renseigne, j'essaie de trouver l'espèce. C'est très dur d'observer les oiseaux, de déterminer avec exactitude de quelle espèce il s'agit. Mais alors ma phobie existe toujours, ça ne part pas.
Elle vient d'où, on ne sait pas.
C'est mystérieux, mes grands-parents avaient une ferme, est-ce que en allant dans le poulailler j'ai été traumatisé peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai... Une souris, une araignée, ça ne me fait rien, mais une bête à plumes, j'ai peur. Aujourd'hui, il y a l'objectif entre les oiseaux et moi, donc j'arrive à les photographier sans trop de difficultés. J'aime beaucoup, c'est un défi, parce qu'un oiseau, ça va très très vite. Il y a un petit challenge, et puis j'ai appris aussi à les écouter. Enfin, c'est intéressant, les oiseaux, c'est souvent avec l'oreille déjà. On reconnaît les cris, et on arrive à localiser l'arbre, on les voit pas toujours. Et puis, parfois, comme tout à l'heure, il peut y avoir des très belles surprises. Un oiseau va surgir, se poser sur une grille, un rouge-gorge, un merle, un jet, et ça fait des très très belles photos. Et on voit tout ça en plein Paris. Et ça, moi aussi, j'étais complètement... pour moi, Paris, c'est les pigeons. Enfin voilà, c'était ça avant. Alors que là, il y a 60 espèces d'oiseaux qu'on peut observer toute l'année au Père-Lachaise. Et c'est aussi formidable.
Ah, vous en parlez dans le livre Corneille, perruche à collier, les piques, les pigeons, les mésanges charbonnières, les pies bavardes, les pinsons, les merles noires, etc. Des rapaces, la chouette hulotte, le rouge-gorge et le jet des chênes, vous en parlez parce que ce sont vos préférés quand même.
Oui, à force de les photographier, bizarrement, on a des préférences, on s'attache. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le rouge-gorge, enfin, je le trouve très beau, il est magnifique. Et le jet, c'est un oiseau très très étonnant, assez discret, parce qu'on... On voit très vite, vous allez au Père-Lachaise, vous allez voir des corneilles tout de suite. C'est l'oiseau emblématique. Les perruches, on les entend très très vite. Les mésanges, c'est assez facile à voir. Un jet, c'est assez difficile. Mais c'est un oiseau qui est assez gros, très beau, avec une très belle couleur bleue sur ses ailes. Il est intéressant, il est un peu farouche, il est... Voilà, je me suis attaché à lui, je pourrais pas dire pourquoi, mais j'aime beaucoup le jet et j'adore les photographier.
Vous êtes un amateur spécialisé, et on a le sentiment que vous êtes vraiment devenu extrêmement spécialisé, vous êtes cultivé ou renseigné, vous avez été pris en main par des naturalistes, des spécialistes.
Oui, je suis vraiment parti de zéro. Différencier un merle ou un étourneau, je n'y arrivais pas il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est facile pour moi, mais c'est grâce à des rencontres d'observateurs, de naturalistes. On a la chance, moi j'ai été la chance d'avoir des personnes de la LPO, Ligue de Protection des Oiseaux, à Ivry déjà et au Père-Lachaise encore avec un référent qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont expliqué ces oiseaux, quel était justement leur... Ils étaient très intelligents, comment ils s'adaptaient à la vie dans un cimetière, quel était l'intérêt de les observer, que signifiait leur présence, comment aussi les repérer. On apprend, c'est en observant, je trouve qu'on s'intéresse aux vivants. qu'on arrive à observer les oiseaux, qu'on apprend le mieux. Et de fil en aiguille, bah effectivement, aujourd'hui, alors je me suis loin d'être un spécialiste, hein, je me trompe encore entre une grive musicienne, une grive movie, c'est très difficile, un merle, une merle merlette également, c'est assez difficile par rapport à une grive musicienne. Moi, je me trompe encore.
Vous êtes déjà dans une précision quand même.
Déjà dans une précision, mais même les spécialistes entre eux sont pas forcément d'accord. C'est intéressant parce que des fois, je consulte des collègues ou des experts, il peut y avoir débat. Donc, c'est un monde passionnant, et on voit les comportements des animaux. Moi, je vois les mésanges, elles s'adaptent, elles vont nicher dans des statues, elles vont prendre leur bain dans le couvre-caveau d'un marbrier. Enfin, je trouve ça, c'est symbolique entre la mort et la vie. Très intéressante, et ça, une certaine poésie que j'aime beaucoup dans ces observations.
Cathy Bias-Morin voulait peut-être réagir. On peut préciser que aussi sur les stèles ou sur les tombes, il y a des dessins de fleurs, des animaux qui ont été réalisés en hommage aux personnes décédées. Et c'est une autre façon aussi de les accompagner, hein, bien sûr.
Oui, et puis je pense que le fait d'avoir un cimetière très fleuri et très vert, nous on a la chance d'avoir un vrai boisement en plus en cœur de cimetière et un dénivelé extrêmement fort. Donc on a des vues magnifiques sur l'ensemble de la ville et sur le château. Les particuliers aujourd'hui, les gens qui viennent faire des accompagner leurs défunts, ont demandé à certaines personnes, à des paysagistes, de créer des jardins sur leur sépulture. Et on a vu ce démarrage, et on était assez contente que ça démarre chez nous, finalement, parce que du coup, ça veut bien dire que les gens ont une sensibilité en se promenant dans un nouveau lieu. Et aujourd'hui, on vient au cimetière des Gonards, et même dans les autres cimetières de la ville, pour se promener. Et donc moi, au contraire, je suis très fière si on me dit que c'est un cimetière-parc. Je le revendique pour les équipes de jardiniers qui y travaillent. Pour nous, ça veut dire qu'on est plus dans un aboutissement. Évidemment, on vient pour s'y recueillir, mais on a créé aussi un jardin d'accueil qui n'est pas un jardin du souvenir, qu'un jardin où on peut venir même déjeuner le midi, où on peut se poser, prendre un livre, se recueillir et être tranquille. Et puis, le fait de désimperméabiliser l'ensemble des trottoirs et de replanter des arbres au cœur des cantons. Là, pour le choix, on a vraiment un travail de fond avec le service des conservateurs et les équipes de jardiniers, le responsable du patrimoine arboré, la chargée de biodiversité, pour qu'on se dise, bon, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que ça va avoir comme intérêt pour les oiseaux, pour les insectes, en termes d'ombrage? Parce que nous, les îlots de chaleur, on est en plein dedans. Dans un cimetière, on a presque 3 degrés de plus hein, qu'en ville. Et donc, la désimperméabilisation des trottoirs, elle est fondamentale. Et replanter des arbres aussi, du coup.
Intéressant de voir qu'à travers votre expérience, Cathy Bias-Morin, c'est vrai que ce lieu qui est un cimetière à la base, et c'est pas le cimetière du Père-Lachaise, c'est déjà un lieu touristique. Donc, on vient s'y promener, on vient aussi déambuler. Chez vous, vous dites qu'on peut le faire, effectivement, dans n'importe quel cimetière, et c'est certainement cette évolution et cette transition de ces lieux et de mort et de vie en même temps. Alors, à ce stade de l'émission, Benoît Gallo, je me tourne vers vous parce que c'est le moment de notre partage musical. Et on a retenu votre proposition Bachung immortel. Alors, au-delà du mot, on imagine bien, mais est-ce que vous avez peut-être autre chose à partager avec nous à partir de cette chanson?
Oui, Alain Bachung alors, est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. Sa tombe est l'une des plus visitées aujourd'hui. Elle a la particularité d'être recouverte de baisers au rouge à lèvres. Il y avait cette tradition sur la tombe d'Oscar Wilde. Aujourd'hui, c'est Alain Bachung. Immortel, c'est une très belle chanson. Il y a une plaque avec marqué Immortel sur la tombe d'Alain Bachung également. Et je trouve les paroles très très belles également, donc c'est pour ça que j'ai fait cette proposition.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils dureraient? Quand se mordant la bouche, le goût en haut revenait. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait, et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortels, mortels, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Et sur ce très beau choix musical, Bachung Immortel, choix de Benoît Gallo, nous poursuivons notre magazine de l'environnement sur France Culture. De cause à effet, et nous nous intéressons ce soir au cimetière, lieu de vie et terrain de jeu du sauvage. Et pour interroger le changement de regard et de politique paysagère qui s'opère sur ces terrains de vie, eh bien, nous sommes avec Benoît Gallo, donc le conservateur du cimetière du Père-Lachaise, auteur du livre La vie secrète d'un cimetière, livre paru aux éditions Les Arènes, et Cathy Bias-Morin, directrice des espaces verts de la ville de Versailles et l'une des pionnières en matière de transition des espaces verts publics et vice-présidente à la transition écologique énergétique de l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Mais tout de suite, comme d'habitude, nous prenons la direction de la rédaction des pages Planète du journal Le Monde, notre partenaire média. Et dans cette actualité qui touche à l'environnement, Stéphane Mandard est notre œil du monde Planète pour un article qui s'intéresse à la banque BNP Paribas sous le coup d'une mise en demeure de cesser de financer les énergies fossiles. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir Aurélie, vous avez aimé l'affaire du siècle, vous allez adorer l'affaire BNP Paribas, les ONG Notre Affaire à Tous et Oxfam France, qui ont fait condamner l'État en justice pour son inaction climatique, entendent désormais ouvrir, je cite, le procès d'un financeur du chaos climatique. Un premier jalon a été posé le 26 octobre avec les Amis de la Terre, elles ont mis en demeure la première banque française de cesser, vous l'avez dit, de soutenir le développement des énergies fossiles. Elle s'appuie sur une loi, qui est la loi sur le devoir de vigilance, qui oblige les grandes entreprises françaises à identifier et prévenir les atteintes graves à l'environnement ou aux droits humains pouvant résulter de leurs activités. En l'espèce, les associations reprochent à BNP Paribas de ne pas l'appliquer en matière climatique en continuant à financer des projets pétroliers et gaziers. Elle fixe un ultimatum au groupe bancaire. Il a 3 mois pour se mettre en conformité avec la loi. À défaut, les associations saisiront le tribunal judiciaire de Paris. avec un objectif, aboutir au premier contentieux climatique au monde impliquant une banque commerciale. Jusqu'ici, des États, la France ou les Pays-Bas, et des groupes pétroliers comme Shell ont été condamnés. Pour mettre la pression, comme dans l'affaire du siècle, une pétition a également été lancée.
Alors expliquez-nous, Stéphane, pourquoi cibler spécifiquement BNP Paribas plutôt qu'une autre banque ?
Alors parce que BNP Paribas est le premier financeur mondial des principales majors pétro-gazières. Entre 2016, soit après l'accord de Paris, et 2021, le groupe a injecté plus de 43 milliards de dollars dans les 8 principales compagnies européennes et américaines. Aucune autre banque au monde n'a investi autant. Les American City et JP Morgan Chase, qui complètent le podium, ont seulement, entre guillemets, injecté 36 milliards de dollars sur la même période. À titre de comparaison toujours, les françaises Crédit Agricole et Société Générale se classent en 9e et 10e position avec respectivement 15 milliards et 13 milliards de dollars. BNP Paribas est ainsi le premier bailleur de fonds de BP et Shell et le financeur majeur pour 6 autres géants que sont Total, Chevron, ExxonMobil, Eni, Repsol et Equinor. La première banque française est également la championne du monde des investissements dans des secteurs en plein essor, malgré la menace qu'il représente pour les écosystèmes. BNP Paribas est celle qui a le plus investi dans l'expansion pétrolière et gazière en Arctique, près de 6 milliards de dollars, toujours entre 2016 et 2021, plus de 3 fois plus que le Crédit Agricole. Avec 36 milliards de dollars sur la même période, elle est aussi le premier financeur mondial de l'exploitation de pétrole et de gaz offshore, c'est-à-dire en mer. Au total, en ajoutant le soutien au charbon, BNP Paribas est le premier financeur européen et le 5e mondial, derrière 4 établissements américains, du développement des énergies fossiles, avec pas moins de 55 milliards de dollars accordés entre 2016 et 2021.
Et que dit BNP Paribas pour sa défense ?
Alors, BNP Paribas assure, je cite, « être engagé dans une transformation en profondeur pour aligner ses activités sur les objectifs de l'accord de Paris, les fameux 1,5 degré de réchauffement. Elle s'est fixé des cibles à atteindre en 2025, par exemple, réduire de 12% les crédits dans les activités de production et de pétrole et de gaz par rapport au niveau de 2020. Cet engagement ne concerne cependant pas les oléoducs et gazoducs et ne s'applique pas à ses investissements sur les marchés financiers. » En outre, la banque ne précise pas où elle en est de cette trajectoire. À l'instar des principaux établissements bancaires, BNP Paribas a aussi rejoint en 2021 la Net Zero Banking Alliance, une initiative portée par l'ONU qui vise une économie décarbonée à l'horizon 2050. Mais la marche est très très haute. En 2020, l'empreinte carbone de la banque était estimée à environ 750 millions de tonnes d'équivalent CO2, un chiffre supérieur à l'ensemble des émissions territoriales françaises.
Affaire à suivre donc, Stéphane Mandard.
Absolument, une affaire qui devrait durer puisque dans 3 mois, on saura si la justice est saisie de ce dossier.
Merci à vous Stéphane. Et pour retrouver votre article sur ce sujet et comprendre encore plus en profondeur cette affaire, direction notre site franceculture.fr, rubrique de cause à effet, et le site du journal lemonde.fr.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Depuis quelques dizaines d'années, les perruches à collier colonisent nos parcs et jardins. Il y en aurait 85 000 en Europe. Le parc de Sceaux, en région parisienne, c'est le plus grand site de reproduction des perruches à collier en France.
Il y a 90 nids recensés en 2016. Il y a eu une grosse augmentation depuis 2003 où on a repéré le premier couple. On est monté de manière exponentielle. Et 2015-2016, ça a stabilisé autour de 80-90 couples.
La première génération est arrivée en France au milieu des années 70. À l'aéroport d'Orly, plusieurs dizaines de spécimens se seraient échappés accidentellement d'un conteneur en provenance d'Inde.
Ils se sont bien habitués, je pense, aux conditions climatiques, parce que ce sont des oiseaux, je pense, qui viennent d'Extrême-Orient et apparemment, elles ont fait un peu leur trou ici.
Mais les perruches à collier commencent à faire des dégâts. Le potager du Jardin du Roi à Versailles est devenu un de leurs garde-manger favoris.
Donc on a perdu sur nos pommes, en tout cas l'année dernière, et sur une bonne partie de nos poires, on va dire au moins 50%, 40 à 50% de la production. Sur nos prunes, on a même perdu plus que 50%. On a dû arriver à 60, 70% de notre production de prunes.
Aujourd'hui, la réglementation varie selon les pays. En Angleterre, une licence permet aux chasseurs de les tuer dans les jardins où elles causent des dégâts. L'Espagne a interdit la vente et la détention de ces perruches. En France, pour le moment, aucune étude n'a prouvé que sa prolifération se faisait au détriment d'autres espèces.
Extrait d'un reportage diffusé sur France 2 le 26 mars 2018. Quand le végétal, le minéral et le vivant sauvage se mêlent, donc cela fait des cimetières, des lieux de vie. Mais ça peut aussi générer, selon les espèces qui investissent ces lieux, une gestion nouvelle peut-être. Est-ce que l'un ou l'autre voulait réagir? Oui, Benoît Gallo.
Oui, la présence des animaux peut causer quelques désagréments. Il y a un désagrément qui est antérieur aux zérophytos, c'est les fientes des oiseaux. Moi, j'ai régulièrement des familles qui me demandent de couper la branche qui est au-dessus de leur tombe pour que les oiseaux arrêtent de la salir. Alors, bien sûr, on répond toujours par la négative. On ne va pas mettre en péril la santé d'un arbre pour le confort d'une famille, même si on peut comprendre que c'est pénible. On a également les corneilles, qui sont une espèce qui vont venir arracher les plantations faites par les jardiniers ou les familles sur leurs tombes. Donc effectivement, ça peut parfois causer quelques soucis. Les corneilles peuvent être agressives également en période de reproduction. On a quelques plaintes chaque année. Et les renards finalement font peu de dégâts. Quelques trous à droite à gauche, ils vont gratter un petit peu la terre pour chercher des insectes, mais ça reste très tolérable. Et en tout cas, ça n'a pas fait l'objet de plaintes à mon niveau. Tout ça cohabite plutôt très bien, je trouve. Au contraire, en fait, c'est plutôt l'image que donne la présence de ces animaux est tellement importante pour les gens qui viennent se recueillir qu'aujourd'hui, je trouve que les quelques désagréments qu'il faut accepter ne sont pas une cause de soucis majeurs aujourd'hui.
Par contre, il est des caprices de stars qui peuvent générer une gestion particulière, je crois. Comme par exemple le fameux saule voulu par Alfred de Musset dans le cimetière. Moi, je l'ai appris grâce à votre livre. Le dernier saule date de 2020. Racontez-nous un petit peu cette histoire de saule d'Alfred de Musset. Est-ce que ça sous-entend comme préoccupation pour vous?
C'est vrai qu'Alfred de Musset, sur sa tombe, il a gravé un épitaphe dans lequel il indique qu'il veut qu'un saule soit planté à côté de sa tombe. Donc la ville de Paris essaye de respecter sa volonté depuis des décennies maintenant. Malheureusement, un saule a besoin d'un terrain humide et frais, alors qu'au Père-Lachaise, on a des terrains plutôt secs. Et les saules ont la particularité de mourir jeunes. Le développement n'arrive jamais à terme. Alors là, on a planté une essence de saule qui devrait s'adapter à un terrain plus sec. Donc on espère qu'il va avoir une longue vie.
On croise les doigts.
Pour l'instant, il va très bien. Son développement est normal. Donc on reste optimiste pour la suite.
Et puis, il y a des arbres à valeur de tombe. Vous dites même nécrophages.
Oui, ça c'est très impressionnant à voir. Les arbres ont repoussé très vite sur les tombes à l'abandon au Père-Lachaise. C'est comme ça qu'on attend aujourd'hui 4000 arbres. Ce sont essentiellement des arbres en division sur des tombes. Et on les appelle nécrophages parce qu'ils ont poussé sur les tombes. On devine parfois la pierre ou les grilles, même on voit la grille qui dépasse du tronc. C'est assez impressionnant, mais on voit la puissance de ces arbres à prendre vie sur des tombes. On a des érables magnifiques, des frênes, des platanes. Finalement, ils se sont un peu révoltés, ils ont repris la place qu'on avait reprise à un moment pour concéder des sépultures quand il y a eu beaucoup de demandes de la part des Parisiens. Et ça fait des choses très étonnantes à observer avec ces racines qui recouvrent des pierres tombales.
Alors quand des concessions sont abandonnées, Cathy Bias-Morin, je crois que de votre côté, elles ne sont pas forcément restituées. Est-ce que vous avez peut-être suffisamment ou de tombes ou de places ou de propositions ou de réponses possibles aux demandes? Et donc, je crois que vous tentez de les replanter en carré de verdure, c'est ça?
Voilà, alors ça dépend vraiment des cimetières, parce qu'on est un petit peu tendu sur le nombre de concessions dans certains de nos petits cimetières. Mmh. Au cimetière des Gonards, on a un peu plus de place et on se fait un bel arboretum, faut le dire. Hier, j'étais en pépinière et on était en train de choisir des arbres pour les cimetières. Et donc, il y a tout un travail de fond qui se fait parce que finalement, vous avez les allées qui sont arborées souvent et puis l'intérieur des cantons très minéralisé. Alors, ponctuellement, il y a des arbres qui ont été plantés par les personnes qui ont fait des inhumations et qui ont poussé d'un petit conifère de 50 cm, il passe à 2 mètres ou plus de 2 mètres. Et du coup, il embellit à la fois le cimetière. Mais nous, on s'est dit, dans les cantons qui sont trop minéralisés et des cantons avec difficulté d'accès pour les entreprises de pompes funèbres, on fait le choix de travailler ensemble et d'essayer d'immobiliser certaines concessions. Et dès qu'on peut planter un arbre, on le fait, de façon à ce qu'il y ait de l'ombrage. Toujours cette réflexion par rapport aux îlots de chaleur. Et puis, les couleurs automnales, les couleurs printanières, les écorces. On y fait très attention. La fructification aussi, pour donner à manger aux oiseaux en période hivernale, quand on n'a plus grand-chose à prendre.
Et puis, on imagine, penser les cimetières avec la question du réchauffement climatique, c'est sûr. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est vraiment devenu aussi pour vous une des priorités qui engendre une nouvelle façon aussi de gérer les lieux et puis de penser les choix des plantes, des arbres, parce qu'on sait qu'il y a aussi, pour les arbres notamment, le stress hydrique. Donc, comment vous faites?
On travaille en partenariat avec les pépiniéristes qui ont un vrai savoir-faire depuis des années. Puis on se lie aussi avec l'ONF, hein, pour qui a c'est un travail qui est là depuis plus de 20 ans pour eux, hein, puisqu'ils ont vraiment été précurseurs sur les recherches en milieu forestier, et ceux qui ont eu les premières atteintes aussi avec le réchauffement climatique. Et donc on essaye d'adapter notre palette végétale. Quand on plante un arbre, on le plante dans de bonnes conditions, avec une bonne fosse de plantation, une bonne terre végétale et de la place. Ça ne sert à rien de planter un arbre dans un endroit où il n'y a pas de place. C'est pour ça qu'il y a un vrai travail de fond avec les conservateurs des cimetières. Et puis cette réflexion, on la pousse au-delà des cimetières, puisqu'on a une réflexion dans les cours d'école, bien sûr, global, dans les cours de crèche. Oui. Donc on est vraiment là-dessus. Et puis on désimperméabilise les trottoirs aussi en ville. On a une vraie démarche globale dans ce sens-là. Et c'est vrai que dans les cimetières, c'est beaucoup plus encore poussé, puisque souvent les arbres sont plantés sur les trottoirs et qu'il n'y a aucun intérêt à marcher sur un trottoir avec une alternance d'arbres qui, de toute façon, vous oblige à chaque fois à dévier votre trajectoire. Donc autant tout casser, et donc c'est le travail des jardiniers en hiver.
Et quand vous dites que
qui est remarquable.
Vous modifiez les trottoirs, c'est-à-dire ?
Eh ben, ils vont décrouter l'enrobé noir qui est là, remettre de la terre végétale, on va en profiter pour refaire les bordures, parfois refaire l'enrobé sur la chaussée, on met des doubles alignements de pavés pour rappeler un petit peu l'origine de nos cimetières. Donc il y a tout un côté historique qu'on n'oublie pas. Et puis on réenherbe, on est capable aussi de replanter parfois des rosiers auprès des pieds d'arbres ou autre chose, en fonction du choix des jardiniers en place.
Ce qui permet effectivement aussi à la pluie de pouvoir directement partir dans les nappes phréatiques.
Tout à fait, de s'infiltrer à la parcelle et du coup, aussi, dès que vous avez un petit peu de rosée l'été, bah, ça vous rafraîchit tout de suite le lieu, hein. Donc il y a non seulement l'évapotranspiration des arbres, mais la rosée sur la petite pelouse, pas coupée trop court, elle est là pour être bénéfique pour tous.
Benoît Gallo, ces questions liées soit au réchauffement climatique, à la biodiversité, est-ce que ça commence aussi justement à générer une nouvelle façon de gérer le cimetière du Père-Lachaise ? Est-ce que, à l'image de ce qu'on voit dans d'autres pays, par exemple, il y a un État américain, celui de Washington, qui a légalisé le compost humain, c'est-à-dire un enterrement alternatif, hein, voilà, il y a de nouvelles façons de faire. On voit aussi des cercueils biodégradables ou encore l'aquamation, c'est-à-dire qu'avec une solution d'eau de sodium, de potassium et le tout porté à très haute pression, voilà, le corps est mis dans ce liquide. Est-ce que vous sentez qu'il y a aussi une nouvelle peut-être demande, ou alors le Père-Lachaise est encore préservé de ces évolutions qui peuvent aussi se comprendre, voilà.
Sur les pratiques funéraires, pour l'instant, on n'observe pas trop d'évolution. On voit que la crémation au Père-Lachaise reste la pratique majoritaire. On a le seul crématorium de Paris dans le Père-Lachaise avec une 1300 dispersions de cendres par an, qui sont dispersés sur un véritable jardin, sur une pelouse avec des arbustes, des rosiers, etc. C'est plutôt nous, en tant que gestionnaires, on va intégrer, comme à Versailles, ces données-là pour accroître la présence de la végétation. On a peu de place au Père-Lachaise, hein. Ça fait des années que c'est comme ça, mais...
Oui, donc vous, la gestion des concessions est tout autre, hein. Vous ne les mettez pas en carré de verdure.
Alors si, justement. Quand on reprend des concessions, on ne relotit pas tout aux familles parisiennes. Pareil, quand on a des divisions qui sont trop minérales, dès qu'on peut, en fait, réserver des emplacements pour remettre un arbre ou des arbustes ou faire un petit massif pour apporter de la végétation là où il n'y en a pas assez. Donc on a quand même cette vision-là pour faire des cimetières qui sont dans des lieux urbains très très denses, des îlots de fraîcheur. Et aujourd'hui, le Père-Lachaise est cartographié comme un îlot de fraîcheur à Paris. Quand il y a une canicule, il fait plus frais dans le Père-Lachaise que dans les rues avoisinantes. Donc c'est aussi un lieu pour les riverains, pour se ressourcer, gagner quelques degrés en température. Et ça aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les zones urbaines, dans les métropoles, les cimetières ont aujourd'hui, enfin, ont aussi ce rôle-là qui est important, qui est d'apporter, enfin, d'être un poumon vert, un écrin de verdure. Au-delà de sa fonction première d'enterrer les morts, il y a aussi cette deuxième fonction qui devient aujourd'hui essentielle.
Est-ce que vous diriez, l'un et l'autre, que ces expériences, voilà ce qu'on est en train de vivre aussi, et cette transformation de ces lieux, notamment le cimetière, ça a changé le travail de conservateur de cimetière ? Benoît Gallo.
Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la gestion du cimetière est différente de celle qu'il pouvait y avoir il y a peut-être 30 ou 40 ans. On intègre cette dimension, la présence de la biodiversité, la favoriser aujourd'hui fait partie intégrante de mon quotidien. Donc je travaille pas seul, je suis entouré par des équipes. Et on a vraiment une stratégie qui vise à encourager la présence de cette biodiversité, la présence de la faune et de la flore sauvage. Aujourd'hui, c'est un enjeu fondamental. Et dans la gestion des concessions funéraires, on l'intègre également pour verdir au maximum le moindre recoin du cimetière.
Cathy Biasmorin.
Nous, de la même façon, et quand on disait planter des arbres, c'est aussi, on est sur la nappe phréatique, et il y a des moments, les concessions ne nous permettent pas d'enterrer des personnes, puisque la nappe est affleurante. Et donc, on assainit aussi, en plantant des arbres, de façon à ce qu'on pompe l'eau aussi qui peut être en dessous. Donc il y a des endroits qui sont très faciles à végétaliser parce que interdits à la vente quoi qu'il arrive, pour le respect des défunts et le respect du code funéraire. Voilà, mais évidemment que ce sont des lieux de vie et que notre regard est en train de changer depuis plus d'une dizaine d'années en tout cas.
Quelles espèces sauvages, alors faune ou flore, rêvez-vous de voir dans vos cimetières ?
Alors moi j'ai déjà la chance d'avoir les orchidées sauvages, donc je dirais que pour nous c'est extraordinaire. On espère qu'avec notre création de mare, on ait des tritons. Voilà, je pense que ça serait, parce que c'est une espèce protégée, donc ça serait formidable. On a aussi des chauves-souris, on a fait des relevés de chauves-souris, et on a plus de 7 espèces de chauves-souris, donc c'est aussi intéressant. On participe à des relevés, on fait partie d'un protocole de cimetière vivant qui est encadré par la région Île-de-France. Et on est territoire engagé pour la nature au niveau de la ville de Versailles. Les cimetières participent complètement à l'intégration de la nature en ville.
Et à la préservation de la biodiversité. Oui. Benoît Galou ?
Moi, j'aimerais beaucoup voir des écureuils au Père-Lachaise. On n'a pas la chance d'en avoir. Donc j'espère qu'ils trouveront le chemin pour venir jusque dans le 20e arrondissement de Paris. J'aimerais beaucoup les voir. Je les ai vus à Ivry, dans mon ancien cimetière. Ils étaient revenus à la fin, grâce, je pense, également aux zérophyto. Il y avait les conditions pour qu'ils y vivent. Donc ça serait très bien. On a des chauves-souris, alors pas autant qu'à Versailles. On en a que 2 espèces, mais on en a également. J'aimerais bien également des faucons ombreaux, par exemple. Ils sont pas très loin de Paris. Ils pourraient nicher dans un grand arbre. Ça, c'est des espèces très intéressantes également à observer. Mais après, j'espère qu'il y aura des surprises. Voilà.
Et dernière question, parce que vous le confiez quand même dans le livre, c'est-à-dire vous avez même déjà pensé, hein, Benoît Galou, à votre propre tombe, mais qui dit beaucoup de l'évolution et de la mutation qui s'est opérée aussi en vous. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement comment vous voyez votre propre tombe ?
J'aimerais que ma tombe, après réflexion, c'est pas facile hein, de se poser cette question, même quand on travaille dans le funéraire. Moi, j'aimerais que ma tombe soit un lieu de vie, donc j'aimerais bien que... C'est ce que disait Cathy tout à l'heure, qu'il y ait une tombe végétale avec un arbuste, un petit banc pour que les personnes qui viennent ou qui sont de passage puissent s'asseoir, que les rouges-gorges puissent y nicher. Une jardinière peut-être sans fleurs, mais qui servirait d'abreuvoir pour les renards ou pour que les petits oiseaux viennent prendre leur bain. Enfin, j'aimerais voilà, que ma tombe ne soit pas un carré de granit sans aucune vie. Je trouverais ça triste, donc autant faire un lieu de vie pour la faune et la flore.
Cathy Biasmorin, je n'ose vous demander si vous y avez pensé de votre côté, c'est quand même pas des questions faciles, mais bon, comme vous réagissez.
Je dirais que ça serait de planter un arbre et un bel arbre, une belle essence noble. Voilà.
Et il y en a une qui vous tient à cœur. Pas le saule d'Alfred de Musset.
Non, c'est vrai que tout dépend de si pour moi ça serait plus une dispersion de cendres, mais sur ce lieu, c'est plus avoir soit un ginkgo, soit quelque chose de très emblématique. Parce que les couleurs sont belles et puis que c'est le seul arbre qui a résisté à la bombe atomique, donc il faut le rappeler quand même.
Joli symbole. Merci à tous les deux. Merci Cathy Biasmorin, merci Benoît Galou. Benoît Galou, je rappelle le titre de votre livre, La vie secrète d'un cimetière, paru aux éditions Les Arènes. Et bien sûr, la bibliographie complète, les liens qui vous concernent et autres dossiers sont à retrouver sur notre site franceculture.fr. Rubrique de cause à effet, téléchargement, réécoute sont à votre disposition. Belle soirée à tous.